Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1952, Le vieil homme et la mer est un court roman de Ernest Hemingway, situé dans un village de pêcheurs cubains. Il suit Santiago, marin âgé, qui ne rapporte plus de prise depuis 84 jours. Aidé avec fidélité par le jeune Manolin, mais contraint de partir seul, il gagne le large et engage un combat prolongé avec un immense marlin. Le livre emprunte la forme concrète d'une aventure maritime, tout en donnant à chaque geste une portée morale et symbolique. La fatigue du corps, la maîtrise du métier, la pauvreté, la solitude et le rapport aux animaux structurent une méditation sobre sur la condition humaine. Hemingway ne propose ni discours théorique ni psychologie explicative abondante. Il fait émerger les enjeux par les pensées, les décisions et les efforts du pêcheur. Cette économie de moyens donne une force particulière au récit. Derrière une intrigue très simple, le roman examine ce qui demeure à un individu lorsque le résultat matériel de son travail semble lui échapper. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la pêche comme épreuve de compétence et de persévérance, la situation initiale donne au départ de Santiago une nécessité concrète. Après une longue série de jours sans poisson, il doit prouver que son savoir professionnel et sa valeur ne se sont pas éteints avec l'âge. La pêche ne sert donc pas seulement de décor exotique ou de prétexte aventureux. Elle représente un métier exigeant, fondé sur l'observation des courants, le choix des lignes, la patience et la résistance physique. Hemingway montre que la persévérance de Santiago n'est pas une simple obstination aveugle. Le vieil homme évalue sans cesse les conditions, protège ses ressources et adapte ses gestes à la force du poisson. Sa lutte est crédible parce qu'elle dépend aussi de techniques précises et d'une longue expérience de la mer. Cette attention au travail distingue le roman d'une fable morale abstraite. La dignité du personnage naît de son application quotidienne, même lorsque personne ne la récompense. Le combat révèle également les limites du corps vieillissant. Santiago souffre, doute et se sait vulnérable, mais il refuse de confondre fatigue et renoncement. Le texte interroge ainsi la valeur d'un effort dont le bénéfice peut être perdu. Il suggère que la persistance, lorsqu'elle reste liée au jugement et au métier, constitue déjà une manière de préserver sa dignité. Deuxièmement, le marlin comme adversaire respecté plutôt que simple trophée. Le rapport entre Santiago et le marlin évite une opposition simpliste entre un homme conquérant et une nature passive. Le pêcheur veut capturer le poisson, car sa survie économique dépend de son travail, mais il reconnaît progressivement chez lui une puissance, une endurance et une noblesse comparables aux siennes. Cette reconnaissance transforme la prise en duel entre deux êtres engagés dans leurs propres nécessités. Le marlin n'est pas humanisé de manière sentimentale. Sa grandeur vient de sa résistance réelle, de son mouvement dans la mer et de la difficulté même qu'il impose aux pêcheurs. Santiago parle du poisson et pense à lui comme à un rival digne, tout en poursuivant son objectif. Cette tension est essentielle au livre. Hemingway ne prétend pas effacer la violence qui lie la pêche à la subsistance, mais il refuse de réduire l'animal à une marchandise. Le respect ne supprime pas le conflit. Il oblige plutôt Santiago à mesurer le prix de sa victoire. Le retour vers la côte, marqué par la destruction progressive de la prise, accentue cette ambiguïté. Le succès apparent ne peut être pleinement possédé. Le roman invite donc à considérer la nature comme un monde autonome, qui résiste aux projets humains et impose une forme d'humilité à celui qui veut en vivre. Troisièmement, une défaite matérielle qui devient une victoire de caractère, le mouvement final du récit fonde l'une de ses paradoxes les plus connus. Santiago réussit à vaincre le marlin, mais il ne ramène pas au port la richesse que cette prise semblait promettre. Les requins dévorent le poisson durant le trajet, ne laissant qu'un squelette. Sur le plan économique, le voyage est donc un échec. Le vieil homme demeure pauvre, épuisé et blessé. Pourtant, Hemingway ne présente pas cette issue comme une annulation pure et simple de son combat. Santiago a tenu face à la souffrance, à la solitude et à une adversité qui dépasse ses forces. Son échec matériel rend visible une autre forme de réussite, liée à la conduite plutôt qu'au résultat. Cette distinction ne doit pas être transformée en consolation facile. La perte a des conséquences réelles et le livre ne nie pas la dureté de la condition du pêcheur. Mais il montre que la valeur d'une personne ne se réduit pas à ce qu'elle parvient à conserver ou vendre. Le squelette du marlin devient le signe public d'un effort que les autres peuvent désormais apercevoir, même sans en avoir vécu l'intensité. Le roman questionne ainsi les critères ordinaires du succès. Il oppose à la seule efficacité marchande une idée plus exigeante de la dignité. Fondée sur la fidélité à son travail et sur la capacité de ne pas se laisser intérieurement vaincre. Quatrièmement, Manolin et la transmission affective entre deux générations, la relation entre Santiago et Manolin apporte au récit solitaire une dimension humaine décisive. Les parents du garçon lui ont imposé un autre bateau, car ils jugent le vieux pêcheur trop malchanceux. Cette séparation souligne la précarité de Santiago et la logique pratique des familles qui dépendent des prises. Cependant, Manolin ne rompt pas son lien avec lui. Il lui apporte de la nourriture, aide à porter le matériel et continue de lui demander conseil. Ses gestes ne relèvent pas de la pitié. Ils expriment une reconnaissance pour un maître et un ami. Santiago transmet au garçon des connaissances de pêche, mais également une façon de regarder la mer, les poissons et le travail. Manolin, de son côté, offre au vieil homme une présence qui contredit son isolement sans le nier. Leur attachement ne gomme ni la différence d'âge, ni la fragilité sociale qui les entoure. Il révèle plutôt que la transmission repose sur une confiance réciproque. Le garçon voit en Santiago autre chose qu'un homme momentanément sans réussite. Il reconnaît son expérience et sa valeur. Après le retour du pêcheur, son désir de naviguer à nouveau avec lui donne une continuité au récit. La leçon reçue ne porte pas seulement sur la technique. Elle concerne la loyauté envers une personne dont l'épreuve a confirmé la grandeur, malgré les apparences de la défaite. En dernier lieu, la sobriété narrative et le symbolisme ouvert de Hemingway, le style de Hemingway repose sur des phrases directes, des descriptions concrètes et une forte économie d'explications. Dans Le vieil homme et la mer, cette sobriété convient au cadre maritime et à la solitude de Santiago. Les gestes du pêcheur, les changements de lumière, les blessures de ses mains et les mouvements du poisson sont rapportés avec précision. Le lecteur est ainsi maintenu au plus près de l'effort physique. Pourtant, cette apparente simplicité ouvre un vaste espace symbolique. La mer peut évoquer la nature indifférente et familière, le marlin une grandeur inaccessible, les requins la destruction qui suit tout accomplissement. Et les lions rêver la mémoire de la jeunesse ou la persistance du désir. Aucune de ces lectures ne doit devenir une équivalence rigide. La force du texte tient au fait que les éléments restent d'abord réels dans l'histoire. Hemingway ne les transforme pas en allégories explicitement expliquées. Les pensées de Santiago, souvent formulées dans le silence de sa barque, donnent accès à sa conscience sans interrompre l'action par de longs commentaires. Cette méthode permet au roman de parler simultanément de pêche, de vieillesse, de travail et de mort. Elle explique aussi sa grande accessibilité. Le récit peut être lu comme une aventure tendue, tout en soutenant une analyse plus approfondie de la vulnérabilité humaine et du besoin de donner un sens à l'épreuve. En conclusion, Le vieil homme et la mer convient au lecteur qui cherche un classique bref, mais suffisamment dense pour nourrir une réflexion durable. Il peut intéresser les élèves et étudiants par la netteté de sa construction, la richesse de ses symboles et l'exemple très lisible du style de Hemingway. Il parlera aussi aux lecteurs attirés par les récits de mer, les histoires de travail manuel ou les portraits de personnages confrontés à l'âge et à la solitude. Son apport intellectuel tient moins à une doctrine qu'à une question persistante: comment évaluer une existence lorsque le résultat visible d'un combat est perdu. Le roman oblige à distinguer le gain matériel, le regard des autres et l'intégrité avec laquelle une personne agit sous la contrainte. Il offre également une lecture nuancée de la relation entre humains et animaux, où la nécessité de capturer ne supprime jamais l'admiration ni le respect. Comparé à de nombreux romans d'aventure maritime, il se distingue par son extrême concentration. Peu de personnages, un espace limité et une action simple suffisent à porter une réflexion ample sans surcharge dramatique. Comparé au récit de dépassement de soi, il évite aussi le triomphe facile. Santiago ne conquiert pas définitivement le monde, et son corps reste marqué par l'épreuve. Cette retenue fait la singularité du livre. Hemingway transforme une traversée de pêche en examen précis de la dignité, de la perte et de la fidélité à un métier. Sa brièveté ne réduit pas sa portée, elle la condense. Si vous souhaitez soutenir Ernest Hemingway, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.